Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire du journal du jour, réhabilitation d'un joyau patrimonial art déco comme la ville de Villefranche-sur-Saône en détient. Ancien bâtiment des années 1930 de la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, ainsi que sur le même site l'ex-bâtiment de formation de 1970 deviendront le futur siège de la communauté d'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône. Une réunion d'information et une visite avaient lieu ce 14 avril dernier. Plusieurs études soulignent que si les modèles d'IA sont entraînés avec des données elles-mêmes générées par l'IA, les réponses finissent par ne plus avoir aucun sens. Ils se mettent à produire des contenus de plus en plus incohérents, un problème pointé du doigt par plusieurs études scientifiques, nous narre le Figaro. Sans aucun contrôle, pendant plusieurs générations, un scénario catastrophe serait que le syndrome d'effondrement des modèles empoisonne la qualité et la diversité des données pour la totalité de l'Internet. Un Internet rempli de contenus fait par l'intelligence artificielle et des modèles devenus fous pourrait menacer l'avenir d'une industrie de l'IA en plein boom. Des chercheurs des universités américaines Rice et Stanford ont montré que les images générées devenaient de plus en plus communes et étaient progressivement parsemées d'éléments incongrus, à mesure qu'ils ajoutaient des données artificielles au modèle, comparant ce phénomène à la maladie de la vache folle. Cette épidémie apparue au Royaume-Uni trouvait son origine dans l'utilisation pour l'alimentation des bovins de farines animales obtenues à partir de parties non consommées des carcasses bovines et des cadavres d'animaux contaminés. Mais pour d'autres spécialistes, le problème est exagéré et loin d'être inéluctable. En reconnaissant toutefois que les experts de l'IA sont frustrés, comme tout le monde, de l'état du web, une partie de l'Internet serait une poubelle. Réhabilitation d'un des joyaux patrimoniaux art déco comme la ville de Villefranche-sur-Saône en détient. Les anciens bâtiments des années 1930 de la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais deviendront le futur siège de la communauté d'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône. Témoignage des riverains et des acteurs de l'opération à l'occasion d'une réunion d'information et une visite des lieux ce 14 avril dernier. Les premiers travaux débuteront courant juin au 267 boulevard Gambetta.
Pierre Haricot et je suis chargé des grands projets à la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Alors sur le bâtiment consulaire qui est le plus ancien bâtiment des années 1930, effectivement c'est des travaux de restauration, hein. On va essayer de garder les principaux éléments historiques et de remettre en valeur en fait ce patrimoine, tout en créant aussi de nouveaux aménagements, parce que ça va devenir un espace à la fois de travail, un espace d'assemblée et de réunion.
La réhabilitation concerne deux bâtiments, un consulaire des années Art déco de 1930 et sur le même site, l'ex-bâtiment de formation à l'approche minimaliste du modernisme dans son architecture de 1970.
Alors le bâtiment consulaire il sera destiné à accueillir la nouvelle salle d'assemblée, hein, donc qui aujourd'hui l'agglomération n'a pas de salle d'assemblée, hein, et aussi des espaces de réunion et des espaces de bureaux, donc une petite partie pour des espaces de bureaux. Et puis ce sera donc l'autre bâtiment, l'ancien bâtiment formation qui, lui, va accueillir une majorité des collaborateurs, hein, des salariés de l'agglomération, y compris des salles de réunion, de l'accueil du public se fera aussi dans ce bâtiment-là.
Le déroulé des travaux à venir.
Effectivement, on garde l'enveloppe du bâtiment, on garde toutes les façades. Sur le bâtiment consulaire, on va garder le hall d'entrée, le hall majestueux avec la montée d'escalier. Et puis après, pour le reste, effectivement, on va tout casser. On va d'abord désamianter, déplomber, curer le bâtiment. Et puis après, on va effectivement faire tous les travaux de rénovation classique, hein, sachant qu'on porte l'ambition d'avoir un bâtiment exemplaire au niveau environnemental et au niveau énergétique, donc avec des labels basse consommation, bas carbone. Et donc du coup, effectivement, on va isoler par l'intérieur, changer l'ensemble des menuiseries, isoler les plafonds, refaire les façades, aménager les bureaux, donc effectivement avec tout ce qui est chauffage, électricité, tout ce qu'il peut y avoir dans un bâtiment tertiaire.
Une nouveauté vient s'ajouter à celui de l'économie d'énergie, le choix de la climatisation.
Alors, le choix, ça a été de travailler effectivement sur tout le volet énergétique, mais on travaille aussi de plus en plus sur le confort d'été, par le biais effectivement de l'isolation, de brise-soleil, donc qui permettent d'éviter effectivement l'exposition pendant les heures où le soleil tape très fort en été. Et puis après, on a tout un système de rafraîchissement via des ventilateurs, des centrales de traitement d'air, mais pas de climatisation, effectivement, parce que ça consomme énormément d'énergie et en fait, c'est un peu contre-productif par rapport à ce qu'on veut. On ne veut pas chauffer la ville, donc on va plutôt travailler sur, on va dire, tout ce qui est passif.
Un défi pour les architectes de faire revivre le patrimoine à l'ère contemporaine.
Évidemment, qu'on a conservé, parce qu'évidemment, le but est de démolir le moins possible.
François Grimal, architecte. Je suis directeur de projet chez Patriarche, qui est une agence d'architecture internationale. Non. Absolument, oui. À chaque fois, faire un projet de réhabilitation, c'est se mettre dans les chaussures de l'architecte qui a conçu le bâtiment à l'origine. Et donc c'est le comprendre et se confronter à tout ce qu'on n'a pas prévu et qu'il faut arriver à solutionner. Donc c'est passionnant.
Quel esprit d'analyse pour réaliser des travaux dans un site patrimonial remarquable ?
Alors vous avez raison de le préciser, effectivement un projet aujourd'hui de cette envergure, ça mobilise environ une douzaine de personnes et de compétences techniques tout autour de l'architecte. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et comment on l'a conçu ? Ben, déjà l'idée c'était de bien comprendre les bâtiments existants, leur structure, leur fonction, leur qualité, pour pouvoir les exploiter au mieux dans le cadre du projet de réhabilitation. Et donc finalement, c'est une posture un peu d'humilité par rapport à l'existant. L'idée, c'est que ces deux bâtiments, il y a un bâtiment des années 30 et un bâtiment des années 70, mais un seul programme commun avec des usages communs. Et il faut arriver à liaisonner ces deux bâtiments et leur trouver une fonction pour laquelle ils n'ont pas été conçus initialement. Donc on s'adapte aux bâtiments et on essaye aussi de les adapter un petit peu au programme. On les fasse passer dans ce 21e siècle.
C'était très, très intéressant de voir qu'on essaye de concilier le passé avec l'avenir, le traditionnel avec le nouveau, et puis que ça reste beau. Et de conserver les matériaux de l'époque et l'esprit de l'époque, c'est important. Et je trouve que ce bâtiment, déjà à l'époque, était bien conçu. Et maintenant, de l'améliorer encore, ça va faire quelque chose de superbe. Juste en face, j'habite en face au 284. Et donc, je vois tous les jours ce bâtiment de mon balcon.
Le concept de la réhabilitation du bâtiment consulaire se déploie sur un mode d'un espace circulaire. Le choix de lignes pures et les courbes douces dans l'approche minimaliste du modernisme des deux bâtiments.
Le bâtiment Art déco a un avant-corps de bâtiment qui adopte une forme cintrée avec une très belle marquise en béton. Et l'idée, c'est que cet arrondi se prolonge avec un perron et donc des emmarchements sur l'espace public qui se traduisent ensuite par des arcs de cercle dans le traitement de sol. Et ces formes courbes, on les retrouve dans l'espace d'assemblée au premier étage avec cette idée de la forme circulaire qui est la forme de l'assemblée, de la démocratie, du partage et de l'écoute de l'autre aussi.
On est voisins du 149 et puis il faut s'informer de toute façon. Ces bâtiments sont beaux, il faut en faire quelque chose qui soit intéressant pour tous les habitants, l'agglomération plutôt.
Et vous ?
Ben moi c'est un peu pareil, on habite dans le même immeuble juste à côté et puis c'est de la curiosité à la fois parce qu'on passe souvent devant le bâtiment. Et on se pose toujours la question de savoir, tiens, comment c'est fait à l'intérieur, tout ça.
Une réunion d'information auprès des riverains a été donc tenue ce 14 avril sur le projet du futur siège de la communauté d'agglomération VBS, suivi d'une visite des lieux. Les commentaires à cette occasion de son président, Pascal Ronzière.
Oui, la communauté d'agglomération Villefranche a besoin de s'installer dans de nouveaux locaux. Et donc, le projet que nous portons de rénovation des anciens bâtiments de la Chambre de commerce et d'industrie, notamment ce qu'on appelle le bâtiment consulaire, ce bâtiment historique du boulevard Gambetta, va nous permettre de rassembler sur un seul site les 120 agents qui travaillent au siège de la communauté d'agglomération. Ils sont dispersés sur trois sites aujourd'hui, 115 rue Paulbert, mais aussi au Martelet, à Lima. Et donc l'idée, c'est de réunir tout le monde au même endroit pour réaliser des économies, pour pouvoir mieux travailler ensemble. Et puis on a aujourd'hui des conditions d'accueil du public qui ne sont pas forcément très satisfaisantes. Et donc ça nous permettra d'avoir une plus belle visibilité, mais surtout une meilleure qualité de services pour les habitants de l'agglomération.
La question du stationnement était dans les interrogations des riverains et posée au président de l'agglomération.
Le seul souci que je me demande, ce qui va se passer, c'est au niveau du stationnement. Parce qu'il y a quand même, quand toute la communauté va se réunir, donc 18 communes avec les représentants des 18 communes et qu'il y aura des réunions dans la salle de conférence, il y aura, et surtout si ça se termine tard le soir, probablement, à ce moment-là, il faudra que ces gens se garent. Mais heureusement, il y a le parking Boiron quand même. Parce que c'est vrai que les gens de Rivolet et de Saint-Étienne-des-Houlières, ils ne vont pas venir à vélo, ni à pied.
Non, parce que nous, de toute façon, on a des garages, donc ça ne nous impacte pas.
Je ne prends jamais ma voiture, c'est tout à pied, de toute façon.
Moi pareil, on fait tout à pied.
Oui, en fait, on ne réalise pas de parking sur cet équipement, puisqu'il y a des parkings publics à proximité, et puis qu'on défend aussi, vous le savez, à l'agglomération, l'idée de faire changer les habitudes en matière de déplacement, d'utiliser les transports en commun, le vélo, la marche à pied. Et donc, il nous semblait évidemment intéressant de ne pas être les premiers à réaliser un parking pour le personnel ou pour les élus, mais aussi de s'adapter à ce que nous demandons aux gens de faire. Et puis, il y a des parkings publics à proximité, qui permettront évidemment aux gens de se garer et de venir à l'agglomération chaque fois qu'ils en auront besoin. Et aussi, bien sûr, d'accueillir le public dans de meilleures conditions. Et enfin, de préserver, de réhabiliter un bel élément du patrimoine architecturel caladois.
Et alors, jusqu'à présent, je regardais, il était un peu abîmé, sale, notamment la marquise. Et maintenant, je me réjouis de le voir propre et fonctionnel. C'est un très beau projet et les architectes ont vraiment bien travaillé parce que je trouve qu'ils ont essayé d'optimiser un maximum la beauté du site, la préservation du patrimoine. Et ils ont vraiment bien travaillé. Bravo en tout cas pour eux. Voilà.
Oui, c'est un projet qui allie effectivement une grande fonctionnalité, mais aussi une belle qualité architecturale grâce à l'agence Patriarche que nous avons retenue, et avec une végétalisation des espaces publics qui seront ouverts sur le boulevard Gambetta et donc qui vont constituer aussi un îlot de fraîcheur et de verdure en plein cœur de la ville face au palais de justice. Et c'est évidemment une requalification qui intéresse l'ensemble du quartier. Et c'est ce que nous ont dit les habitants qui sont venus visiter aujourd'hui le bâtiment et découvrir le projet.
Et puis, comme c'est un beau bâtiment, on n'avait pas envie que ça soit détruit, quoi. Hein, voilà. Hein. Ils font tout pour conserver.
Non, mais nous, il nous tardait que ce soit repris, que ça revive utilement.
Ça va l'être. Le mot de la fin est donné à Pierre Haricot, responsable pour l'agglomération VBS, des grands travaux, le déroulé des opérations.
On peut savoir ce qui va se passer, comment ça va être programmé, tout ça.
Pour les travaux, par exemple, pas d'inquiétude?
Oh non, pas du tout. Non, je ne pense pas qu'on soit impacté en plus.
De toute façon, les travaux...
Ça se passe à l'intérieur, donc... ça va se passer à l'intérieur pour la plupart, donc... non, là, je ne me fais pas de soucis. Pas de soucis du tout.
Alors, on va commencer des premiers travaux à partir du mois de juin. Travaux de désamiantage, notamment des plombages. Et puis, le gros des travaux va démarrer en octobre donc de cette année, 2025, et se terminer en janvier 2027.
C'est un beau projet.
Ça va l'être.
Fin de notre édition. Très bonne continuation sur Calade. À tout bientôt.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.